RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Bonsoir à tous. Sexas, c'est extra. Certes, le jeune Français, âgé de 19 ans seulement, ne s'est pas imposé, car l'ogre Tadej Pogacar ne laisse rien aux autres. Mais Paul, en terminant troisième au Markstein, derrière le maillot jaune et son coéquipier Isaac Del Toro, est le meilleur des adversaires, dû à eux. Avec nos consultants Jérôme Pinault, Jérôme Coppel et Richard Virenc, nous allons décrypter la première très grosse performance sur ce Tour de France du nouveau maillot blanc. Et si la jeunesse passait au pouvoir ? La lutte pour la deuxième place va être passionnante et nous établirons un baromètre pour le podium derrière Poggi qui, outre Sexas, va concerner Vingegaard, Evenepoel, Ayuso, Lipovitz et Del Toro. Suspense en prévision dès demain vers le plateau de Solaison. Notre dernier quart d'heure vous sera entièrement consacré, chers auditeurs. Appelez-nous au 3216 pour poser vos questions à nos consultants. Et tout de suite, on se replonge dans l'ambiance formidable de cette magnifique étape entre Mulhouse et le Markstein.
Précédemment dans l'intégral Tour sur RMC.
C'est l'heure du Tour de France, réveillez-vous. Et aujourd'hui, pas de sieste, impossible la sieste. Nous sommes entrés dans la montagne. Et quelle montagne, l'étape des Vosges aujourd'hui avec l'arrivée au Markstein. 155 km et 4 cols, dont 3 de première catégorie.
Le lanceur, eh bien ouais, ça Valentin. Valentin Paré-Pin peut-être qui va surprendre Richard Carapace. Oui, il est bien Valentin. Allez Valentin, un peu encore, un petit effort, mais c'est bien, il surveille. Et c'est lui qui va passer en premier devant Richard Carapace et prendre un petit peu plus de points que son adversaire.
On essaye de se placer avant d'attaquer ce dernier col. On a vu les hommes de Paul Sexas le remonter en tête de groupe.
Il n'y aura pas de victoire française, en tout cas pas de Valentin Paré-Peintre aujourd'hui, mais pourquoi
derrière.
Pas de Paul Sexas avec
chaud
ce
derrière,
mouvement qui se décrit maintenant au niveau du groupe maillot jaune derrière. Accélération de l'Hippolyte. C'est Paul Sexas qui y va et personne ne réagit derrière. Il se joue peut-être quelque chose d'important à 5 km du sommet. C'est dur également pour Remco Evenepoel. Ça y est, il est lâché. Remco Evenepoel est lâché. Un homme en moins dans la bagarre pour la lutte, pour le classement général. Il a du mal. Il a beaucoup de mal, Remco Evenepoel.
C'est terminé pour Johannessen et Carapace. Le TGV Vingegaard, Pogacar, Sexas vient de passer à leur côté.
Jonas Vingegaard et Paul Sexas dans sa roue. Ça se bagarre pour ne pas perdre de temps. Trop sur Tadej Pogacar. Attention, cette moto, il ne faut pas qu'elle aspire Tadej Pogacar non plus.
RMC, la flamme rouge.
À 600 mètres de l'arrivée, il est tranquille. Il a 40 secondes d'avance sur Vingegaard et Paul Sexas. Il soulève la main droite. Il passe la ligne. Tadej Pogacar, sans surprise, qui s'impose aujourd'hui. On va s'intéresser, nous, à ce qui se passe derrière. C'est beaucoup plus intéressant. Allez, faut y aller, gamin. Faut y aller. Tu peux battre Isaac Del Toro. C'est dur, c'est dur. Ah, ça brûle dans les cuisses. Isaac Del Toro qui va sans doute prendre la deuxième place. Deuxième, Isaac Del Toro. Troisième, Paul Sexas. Mais il gagne du temps aussi sur Jonas Vingegaard et bien sûr sur les hommes comme Florian Lipovitz, Juan Ayuso et Remco Evenepoel qui passent à l'instant la ligne.
RMC, l'After Tour.
Sexas extra, toute l'équipe de l'After Tour est rassemblée pour analyser cette 14e étape du Tour avec notre capitaine de route Christophe Cessieux. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Notre rouleur Jérôme Coppel. Salut Jérôme.
Salut Pierre-Yves, salut à tous.
Notre coureur d'expérience Jérôme Pinault. Salut GG.
Salut Pierre-Yves, salut à toutes
et à tous. Et notre grimpeur Richard Virenc. Bonsoir Richard.
Bonsoir, bonsoir à tous.
On ouvre notre page Sexas, c'est extra avec toi Richard. Tu savais évidemment, comme nous, qu'il était doué le petit, mais forcément il y a toujours un petit peu de stress quand on arrive dans les étapes les plus dures. Comment, raconte-nous, comment tu as vécu cette fin d'étape? Est-ce qu'il y a eu un peu de stress pour toi aussi ou pas en te disant est-ce qu'il va tenir?
Oui, il y a eu de la joie parce qu'il était sur un terrain qui lui était favorable et il a répondu présent, hein, donc il a bien couru, il a attendu un peu le dernier moment, il a suivi, il est allé au train. Il fallait être là, donc c'est vraiment des bons signes et en plus encourageant parce que on arrive dans cette dernière semaine du Tour qui va être encore de plus en plus dure tous les jours et on voit que Polo il régresse pas, c'est-à-dire que il se rapproche on va dire du podium. Il y avait Pogacar certes qui était devant mais pas si loin que ça, Vingegaard qui est pas mal, on a l'impression que Vingegaard, ben en tout cas le parcours l'avantage comme Paul Sexas, donc je veux dire c'est très encourageant pour demain, en plus avec un maillot distinctif, il monte sur le podium, la France est derrière lui, demain il va être chez lui, ça, c'est que des enseignements où il va être sur un coussin d'air. C'est ça qu'on a, on en a besoin de ça, en tout cas, pour se sublimer. Et voilà, c'est vachement encourageant pour l'étape de demain. J'ai vécu un bon moment de vélo, de sport, et c'est passé plein de choses.
C'est sûr, parce que on ne sait jamais, ça aurait pu faire flop dès cette grande étape. Bah non, c'est pas du tout le cas. Christophe, on commence avec toi par rappeler les classements de cette journée, classement de l'étape et classement général. Il y a des choses qui ont bougé. Tous les classements ont bougé d'ailleurs.
Oui, enfin, il y a quelque chose qui ne bouge pas, c'est Tadej Pogacar, qui en est à sa quatrième victoire depuis le début de ce Tour de France. On l'oublie un peu parce qu'il est tellement au-dessus du lot qu'effectivement, il nous intéresse presque plus. Pogacar qui s'impose donc, quatrième succès depuis le début de ce Tour de France. Il monte son curseur à 25 victoires depuis le début de sa carrière.
Le Duc.
Il égale le Duc et il n'est plus qu'à 3 victoires de Bernard Hinault. Donc peut-être d'ici la fin de ce Tour de France. Il s'impose donc avec 38 secondes d'avance sur son lieutenant Del Toro. On est dans la même situation qu'à Barcelone au début de tour, sauf que c'est inversé. Del Toro avait triomphé devant Pogacar. Pogacar lui avait laissé la place. Et le troisième, évidemment, c'est Paul Sexas qui termine dans la roue d'Isaac Del Toro, qui n'a pas réussi à le passer sur la ligne. Ils terminent tous les deux à 38 secondes. Un peu plus loin, nous avons Jonas Vingegaard qui termine quatrième avec un retard de 44 secondes. Suivent Remco Evenepoel à 48 secondes. Ayuso, 50 secondes tout comme Lipovitz. Carapaz, le héros et le combatif du jour, termine 8e à 1,18. Et puis on descend un peu plus bas pour trouver Lenny Martinez qui est 11e de l'étape avec un retard d'une 41. Voilà donc pour les principaux enseignements de cette étape. Jordan Gegat, lui, est 19e avec un retard de 5,27.
Alors on va se concentrer dans cette première partie vraiment sur Paul Sexas, sur sa performance. Et puis en deuxième partie, on évoquera la concurrence. Dis-nous, au classement général, alors bien sûr, Tadej Pogacar, beaucoup d'avance, mais derrière, c'est très très serré.
Eh oui, c'est très serré. Alors, Vingegaard reste pour l'instant le dauphin de Pogacar, mais il perd du temps tous les jours. Il est à 4,30. Et puis derrière lui, dans l'ombre, Remco Evenepoel qui conserve sa place sur le podium grâce à un beau finish. Remco Evenepoel qui est donc troisième à 5,04. Et puis juste derrière lui, il gagne deux places. Paul Sexas qui remonte à la quatrième place. Il est à 5,19 de Pogacar, mais à 49 secondes seulement de la deuxième place de Jonas Vingegaard. Ayuso suit à 5,22. Lipovitz à 5,44. Del Toro à 5,50. Lenny Martinez est dixième. Il conserve sa dixième place avec un retard de 8 minutes 25.
Voilà, donc là, il y a un peu plus d'écart. Mais c'est vraiment dans un mouchoir pour la bataille pour la deuxième place. On en reparlera dans quelques instants. Et je rappelle, si vous souhaitez poser des questions à nos consultants Richard Viringue, Jérôme Pinault et Jérôme Coppel, vous nous appelez au 32-16. Le dernier quart d'heure vous sera consacré.
Il y a d'autres maillots. Petits enseignements, oui, parce qu'il y a un changement de maillot, notamment pour le maillot blanc de meilleur jeune, puisque cette fois-ci, eh ben, Paul Sexas s'en empare pour la première fois.
Pour la première fois pendant 6 ans.
Voilà, on espère que ça va durer un moment maintenant et qu'il agrémentera ce maillot blanc d'un maillot jaune dans les années à venir. Peut-être pas cette année. Le maillot à poids reste sur les épaules de Pogacar. Il l'a perdu virtuellement pendant l'étape puisque Valentin Paré-Peintre lui avait piqué pour un point. Mais malheureusement pour lui, Pogacar a terminé en tête dans le dernier col. Donc il est toujours à poids, Pogacar. Mais comme il ne peut pas porter tous les maillots, il le prêtera demain à Valentin Paré-Peintre. On aura donc deux Français avec des maillots distinctifs demain. Formidable. Le maillot vert, toujours pour Pedersen.
On a une rubrique dans cet After Tour. D'habitude, elle vient un peu plus tardivement, mais on va commencer par ça. C'est notre rubrique carton.
RMC, l'After Tour.
Le carton.
Alors d'habitude, il n'y a qu'un seul carton. Il peut être vert, il peut être jaune, il peut être rouge. Et là, Jérôme Pinault, Jérôme Coppel, vous avez décidé de mettre deux cartons. On commence par le carton vert. Carton vert à
Paul Sexas. Paul Sexas, président. Voilà, c'est ça que je veux. Non, Paul Sexas, merci déjà parce que je me suis fait, il y a une année, à peu près jour pour jour, avec Gégé, on disait, nous, on aimerait voir Paul Sexas sur le Tour de France dès 2026. On a fait des podcasts en début d'année. Plus on se rapprochait du Tour, plus il y avait des podcasts, Vuelta, Tour de France, pas Tour de France. On a toujours été avec Gégé de la team Paul Sexas sur le Tour de France. On s'est pris des insultes sur les réseaux sociaux, des sous,
il y a eu
des
de caca. De vrais débats,
etc. Je ne suis pas en train de dire qu'on a raison, mais au moins, on va un petit peu moins se faire insulter maintenant avec ce qu'est en train de faire Paul Sexas. Donc, merci Paul. Moi, je vous connaissez, je ne suis pas vraiment objectif avec Paul Sexas, mais physiquement, je n'avais pas vraiment de doute sur ses capacités, sinon on n'aurait pas été de ceux qui voulaient que ce soit sur le Tour. Par contre, il continue à me bluffer jour après jour.
On rappelle qu'il n'avait jamais couru plus d'une semaine.
Jamais couru plus d'une d'une semaine, il gagne le Tour du Pays Basque. Là, il termine sa deuxième semaine. Il est, comme Christophe l'a dit, quatrième du classement général. Moi, j'avais dit, le seul objectif que j'ai pour Paul Sexas, c'est qu'il termine le Tour et qu'il pèse sur le Tour de France. Le Tour de France, on verra s'il le termine. En tout cas, déjà, il pèse sur le Tour de France. Aujourd'hui, il pèse derrière Tadej Pogacar. Personne pèse derrière Tadej Pogacar, mais lui, il est là, il fait la course. Et il me bluffe par sa maturité. Dans les interviews, on va pas pouvoir écouter les interviews en français et en anglais, mais il est encore meilleur dans les interviews en anglais qu'il est en français. C'est-à-dire, et dans son analyse de course, dans sa manière de courir, il est toujours bien placé. Il s'affole pas. J'ai pas vraiment plus de mots que ça à dire sur Paul Sexas, parce que physiquement on sait ce qu'il vaut, mais sur le Tour de France on a dit ça peut être une machine à broyer. Pour l'instant, bien sûr qu'il se fait pas broyer, il prend la mesure du Tour, et dans quelques années le Tour va lui appartenir, j'en suis sûr. Et voilà, il y aura toujours des haters quoi qu'il fasse, mais là je crois qu'il est en train de prouver que sa place est sur le Tour de France et pas ailleurs. C'est un homme de juillet et c'est un homme des plus grandes courses.
Ça, c'était le carton vert. Jérôme Pinault, un carton d'une couleur différente ?
Ben, c'est pour revenir sur ce que disait Gégé au début, je vais mettre un carton rouge non pas à ceux qui étaient contre notre avis de dire il faut mettre Paul Sexas, ceux qui ont été plus loin en disant qu'on était des imbéciles, voire un peu plus, et qu'on était débiles et qu'on connaissait rien au vélo parce qu'il fallait surtout pas l'amener sur le Tour, on allait le cramer.
Mais peut-être Orange, parce qu'on est qu'en deuxième semaine, faut peut-être attendre.
Alors peut-être Orange, mais imaginez-vous, ces gens-là, aujourd'hui, on les écoute, on est d'accord, et Paul vient pas au Tour. Ça fait 4 jours qu'on se fait chier déjà. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde la performance de Paul Sexas, parce que sinon, devant, il y a deux Lascar qui sont auteurs du premier double-doublé du Tour depuis très très longtemps. En plus de cela, Paul, il montre dans ses journées, comme aujourd'hui, qu'il a largement sa place ici. Il est l'un des acteurs principaux. Alors moi, je dis à ces gens-là, il fallait peut-être plus analyser et prendre conscience, sortir son costume de franco-français et prendre conscience que ce gars-là, on n'en a jamais vu des comme ça. Et ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un coureur, mais même au bout de 2 semaines, à 19 ans, de se dire que ce garçon-là, ce soir, il est 4e, il n'a que 19 ans, il est certainement le 3e coureur plus fort du Tour de France, mais devant, si on avait attendu qu'il vienne pour gagner... On attendait encore 5 ans.
Moi, j'étais dans cette équipe-là, mais je ne connais rien au cyclisme. Donc,
c'est pas dire aux gens, moi, je connais les autres, parce que je les vois arriver, ouais. Ça a recommencé. C'est dire qu'il a sa place là. C'est lui qui nous le montre, ce n'est pas nous qui jugeons. Juste par aujourd'hui, il nous le montre.
Il n'est plus dans ce camion, mais moi, je vais quand même donner la position de Cyril Guimard, qui a été notre druide pendant des années, et qui, lui,
C'est pas ces gens-là.
Oui, en partie, je pense aussi. Cyril disait, il ne doit pas s'aligner au départ du Tour de France, parce que ce garçon a une telle classe que lorsqu'il sera au départ du Tour de France, ce sera pour le gagner. Comme il avait fait avec Bernard Hinault en 78, il avait refusé qu'il le fasse en 77, parce qu'il estimait qu'il n'était pas en mesure de remporter le Tour. L'année d'après, il est arrivé à 23 ans, tout juste, et il remporte le Tour. C'était la position de Cyril. Maintenant, le problème, c'est que l'ami Pogacar, il n'a que 27 ans. Donc, il aurait fallu attendre encore 3, 4 ou 5 ans avant de l'aligner au départ du Tour de France. Donc c'est en ça que moi, je diffère de l'avis de Cyril, et que je pensais qu'il viendrait là pour prendre de l'expérience. Et si, en plus, il peut nous faire un podium, ce serait magique.
Et l'autre fois, on a un peu haussé le ton à propos de l'objectif de Paul Sexas. Si Paul Sexas, demain, prend un quart d'heure et termine 150e du Tour, est-ce qu'il fait un bon Tour ou pas ?
S'il termine 150e,
on revient
là-dessus. Demain, il prend un carton, il prend 15 minutes, il termine le Tour, il fait 150e du Tour. Est-ce qu'il fait un bon Tour ou pas ?
On dira qu'il n'est peut-être pas l'élu. On dira qu'il n'est peut-être pas fait pour une course de 3
semaines. Alors, si demain, il prend un quart d'heure, tu vas dire, ou les gens vont dire, qu'il n'est pas l'élu après ce qu'il a montré, l'élu, ou en tout cas qu'il n'est pas capable de gagner un grand Tour après ce qu'il montre.
On aura toujours l'incertitude concernant une 3e semaine.
On aura un petit peu de déception, peut-être.
On aura de la déception, Jérôme. On sera déçu.
Alors, avec ce qu'il fait depuis 2 semaines,
oui, mais
ce qu'il montre.
Oui, c'est sûr. C'est
donc s'il prend un
Tour de France,
s'il prend un carton, oui, d'accord.
Mais Gégé, si on mesure, ça, on se dit qu'aujourd'hui, avec ce qu'on voit, avec le talent qu'il a, s'il a quelque chose et qu'il prend 15 minutes, c'est qu'il a eu une maladie.
Non, mais 4-5 minutes.
Non, mais si c'est une panne de jambe, on sera déçu, Jérôme, malgré tout. Même si on retiendra ces 2 premières semaines, on aura
Moi, ça m'enlèvera aucune incertitude
de savoir.
Posons la question, messieurs, à Richard Virenque.
Moi, je dirais que pendant 3 jours, je vois Paul Sexas, je dirais, avec les meilleurs. J'ai aucun souci. Ma seule interrogation, c'est ce dernier massif montagneux dans les Alpes qui va être dans les derniers jours. C'est là. Mais quoi qu'il en fasse, il finira le tour, même s'il se fait distancer. Il est 8e, 10e au général. Pour moi, ça aurait été une super aventure pour lui. Il aura pris de la caisse. Et c'est très positif. C'est très positif pour l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il flirte avec le maillot blanc. Généralement, ceux qui flirtent avec le maillot blanc, quelques années après, sont maillot jaune. Donc pour moi, Paul Sexas, là, il a le vent en poupe. Et moi, il ne va pas s'éteindre là comme ça. C'est même une petite fringale, un truc, il a le droit de craquer un peu. Mais c'est l'essentiel, il est là et il réveille, on va dire, les supporters. Tout comme disait, il y a Pogacar, mais derrière Pogacar... Oh waouh, c'est dur, mais là, on va dire l'étincelle est repartie dans ce tour parce qu'il y a vraiment un duel avec le podium et tout ce qui se passe derrière.
Eh bien, ce que je vous propose, parce que je suis pas très inquiet en fait pour la suite pour Paul Sexas, écoutez-le, il est plutôt serein.
Je me suis senti bien toute la journée et voilà, c'est une récompense pour tout le travail qu'on a fait. Je suis très content de ma gestion de l'effort aussi. Je me suis accroché mentalement et ça l'a fait. Bien sûr qu'il y avait une inconnue sur ces 2-3 semaines de course. Après, on n'est pas encore en troisième semaine, donc attention. Mais il faut savoir aussi qu'on est des coureurs professionnels, on s'entraîne très dur. On fait des stages qui sont en altitude pendant 3 semaines et on n'en meurt pas non plus. Donc voilà, je pense que j'ai aussi du volume. Cette année, j'ai fait plus de volume que l'année dernière, donc j'arrive mieux à récupérer et pour l'instant, ça va. Mais après, on verra sur les prochains jours.
Franchement, c'est épatant. Il a 19 ans. Quelle maturité, quelle lucidité. Et encore, tu le disais, Jérôme, c'est meilleur en anglais.
Ouais.
Là, on vous diffuse le français, mais...
Mais c'est déjà très bon. Ouais. C'est déjà très bon. Non, mais il connaît sa valeur. Il connaît le travail qu'il a fait. Il l'a dit. Alors, 3 semaines de stage en altitude, c'est pas non plus 3 semaines de Tour de France. Mais il est sûr de lui. Si lui était inquiet ce soir, après ce qu'il nous a montré aujourd'hui, bah, il y en a 165 autres qui devraient être plus inquiets que lui. Parce qu'en plus d'avoir fait une bonne place à l'étape, c'est pas comme Remco Evenepoel par exemple qui va faire deuxième au Lioran ou aujourd'hui qui perd que 10 secondes sur Paul Sexas. Ça, c'est un peu des résultats en trompe-l'œil de Remco Evenepoel. Lui, il peut pas être vraiment serein parce que il raccroche les wagons à la fin sur un profil qui lui convient bien.
Non, mais il va les décrocher dans le contre-la-montre en revanche.
Ouais, mais pas avec tant de marge qu'on pense, à mon avis. Mais par contre, sur une étape comme demain ou l'Alpe d'Huez, etc., tu pourras plus raccrocher les wagons comme tu fais. Donc, il a montré ses limites et je pense qu'à un moment donné, bah, ces limites, elles vont s'afficher au grand jour et qu'il va exploser. Aujourd'hui, s'il arrivait et en haut de la dernière bosse et pas 6 km après, l'attaque part de plus loin. Lui et Lipovic, voire Ayuso, ils sont à une minute ce soir.
Ouais, parce que je le trouve quand même plus malin et plus réfléchi que les dernières années, Remco. Ouais. Aujourd'hui, quand ça accélère trop, il craque. Il craque, mais il se met à son rythme et il revient ensuite sur la fin, quoi.
Mais quand c'est moins dur,
ouais, là, c'est un peu moins dur. Mais même dans le plus dur, il a réussi. Là, aujourd'hui, il n'était pas distancé complètement.
Là, aujourd'hui, sur le col du Hague, je suis d'accord avec Christophe, sur le haut du col du Hague, c'est le plus dur et c'est là qu'il est revenu.
Ouais.
Mais sur Lipovic, c'est Ayuso qui reculait un peu. Moi, ce que je veux juste dire pour compléter ça, c'est que Paul. Aujourd'hui, il a montré une chose, c'est qu'il est capable de suivre les meilleurs en gérant. Il est allé regarder derrière ce qui se passait et il a accéléré sur le final. Et si ça continue de monter après le sommet, je pense qu'il est plus fort que Vingegaard. C'est pas impossible qu'il dépose Vingegaard. Si on regarde le début du tour et puis les étapes de montagne, tous les gars, ils ont tous pétouillé. Ayuso, aujourd'hui, il a coincé. Il a pas pété, mais il a pétouillé, comme dirait Didier Roos. Lipovic, il a pétouillé. Evenepoel, il a pétouillé. Del Toro, il a pétouillé. On le verra dans les interviews de Pogacar. Il dit, j'ai pas attaqué avant parce qu'Isaac était pas bien. Mais ça, dans la tête, ce soir, à l'hôtel, il y a pas de sérénité. Parce qu'on a déjà pris un petit coup de bâton. On a déjà pris un peu de... Même si Evenepoel, c'est deuxième au Lioran. Mais c'est pas sa place, il le sait. Dès que ça monte un peu dur, il pète. Et les étapes qui arrivent, elles vont être très dures. Donc ce soir, le seul qui peut être serein pour se dire, moi je pète pas, bah c'est Paul. Et Pogacar, évidemment.
Les deux cols les plus durs de ce Tour de France, c'était le Tourmalet et aujourd'hui le col de Hague. Qui est passé en tête, deuxième et troisième? Pogacar, Vingegaard, Sexas, à chaque fois. Ça, il n'y a pas de secret. C'est à la pédale. Le Tourmalet s'est fait à la pédale. Aujourd'hui, ça s'est fait à la pédale. À l'heure où on se parle, ce soir, à la fin de la deuxième semaine, les trois plus forts du Tour à la pédale sont Pogacar, Vingegaard et Sexas.
On a été coureur, GG, le lendemain d'une étape comme ça, le soir d'une étape comme ça, tu montes à la table de massage. J'ai jamais été en position pour être dans ces positions-là. Mais on a déjà été dans d'autres courses, on avait un peu plus ce niveau. Tu commences à perdre du temps par rapport à tes concurrents directs. t'as beau avoir un soigneur, un entraîneur ou un coach qui te dit non mais ça va aller mieux demain, t'y crois pas, t'as pris un coup sur la tronche.
Et il y a une personne qui est évidemment ravie, comme beaucoup de Français, c'est le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.
On sait que Paul Sexas, qui est donc le nouveau maillot blanc, allait bien faire, bien évidemment. Mais là, il répond aux attentes sans aucun doute. Ils sont une demi-douzaine pour aller chercher non pas simplement la troisième place, mais la deuxième et ou la troisième place. Et puis ensuite, il y a évidemment une bagarre qui va être formidable pour le maillot blanc. J'ai dit et répété que c'était une pépite. Moi, il y a six mois, j'étais comme beaucoup en disant il faut pas qu'il vienne sur le tour. Il est là, j'ai vu son sourire là. C'était un des premiers sourires qu'il avait juste après la ligne d'arrivée. J'ai vu le sourire aussi de mon fiston, Nicolas Prodhomme, à une voyelle près, voilà, qui m'a tapé dans la main à l'arrivée, donc oui, ils sont contents, ils sont bien, ils sont heureux.
Il est content, Christian Prudhomme, il fait presque partie de la famille de Paul Sexas désormais. Dans quelques instants, on évoquera justement cette thématique, la concurrence pour cette deuxième place. On s'intéresse plus à la première, mais la deuxième place parce qu'il y a du monde. Avant cela, on va faire un petit tour, voir Pierre Thévenet, puisqu'il y a la finale de la Coupe du Monde U20 France-Afrique du Sud de rugby. Salut Pierre.
Salut Pierre-Yves, salut à toutes et à tous. Oui, finale à Tbilissi en Géorgie entre les Français et les Baby Box, champions du monde en titre. Les Français veulent récupérer un titre qui leur échappe depuis 2023. On est parti depuis 6 minutes dans ce match. Il y a eu une première grosse opportunité pour les Français, bien défendue par les Box, qui ont désormais un ballon d'attaque 0-0 au tableau d'affichage entre Français et Afrique du Sud dans des conditions très compliquées, beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Le coup d'envoi a quand même été décalé de 45 minutes pour ce match. 0-0, 7e minute de jeu entre les Bleus et les Baby Box.
Ici aussi au Markstein, il y a eu de la pluie il y a encore quelques minutes et il y a eu du soleil avec Paul Sexas. Dans quelques instants, on évoque donc la lutte au classement général pour la deuxième place avec le Français et les autres, évidemment. Appelez-nous au 32-16 si vous voulez poser des questions à nos consultants Jérôme Pinault, Jérôme Coppel et Richard Virenque. À tout de suite pour l'After Tour.
RMC, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
C'est l'after tour, la deuxième partie. Vingegaard, Remco Evenepoel, Ayuso, Lipovitz, Del Toro et bien sûr Paul Sexas. Voici ses adversaires aux Français pour aller chercher la deuxième place, pourquoi pas, du Tour de France. En tout cas, ça va être passionnant. Pogacar continue à creuser, évidemment. Mais la lutte, là, pour cette deuxième place va être très intéressante. On va évoquer la journée de demain parce que ça va continuer à se bagarrer avant le repos lundi. L'autre enseignement du jour, c'est évidemment ce match qui est très serré, mais on est obligé de dire que Pogacar, lui, continue à creuser, continue à taper sur le Tour de France. Donc, je vous propose de l'écouter. Pogacar, vainqueur encore aujourd'hui à cette arrivée au Markstein.
Oui, je savais qu'Isaac n'était pas à 100%, donc j'attendais les deux derniers kilomètres pour voir s'il y aurait du mouvement. Mais en fait, Decathlon et ensuite Jonas, ils ont vraiment avancé à un rythme très soutenu dans la montée. Je me sentais bien, j'ai donc dit que j'essaierais les deux derniers kilomètres. Je le sens très bien. Il y a tellement de chances que ça donne juste un coup de pouce supplémentaire pour atteindre le sommet. Alors oui, je me lance aujourd'hui, j'avais de bons sentiments, alors je le prends et je saisis l'occasion.
Richard Virenque, il grappille petit à petit. J'ai envie de dire, malgré tout, il assomme pas le Tour de France, même si l'addition, au bout du compte, commence à être salée. Tu le trouves largement au-dessus ou tu l'attendais encore plus supérieur? Ou alors, on se dit, peut-être il attend Isaac Del Toro un peu de temps en temps.
Il pourrait se lâcher peut-être un peu plus, mais Del Toro est là un peu dans son frein parce qu'ils ont un plan pour le classement général, essayer de mettre deux coureurs UAE sur le podium. Donc, mais Pogacar, je le trouve, il est moins expressif que les premiers jours du Tour. Premier jour du Tour, il canabilisait un peu la course. Là, je le trouve, il attend le dernier moment. Forcément, il y a des petits écarts et le suspense reste entier. Et ses adversaires derrière sont juste derrière. Il n'est pas là avec 2 minutes d'avance ou 1:40. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un match serré. Et quand on voit le profil de ce qui attend demain et les prochains jours jusqu'à Paris, il y a de quoi faire et il y a de quoi dévisser aussi. Hein. 4-5 minutes, on peut à un moment donné subir quelque chose. Donc, je ne lui souhaite pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un étau qui se resserre et derrière, ça se rapproche et il y a un duel.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser un baromètre de ses adversaires à Paul Seixas pour éventuellement cette deuxième place. Mais juste avant, on écoute Mauro Gianetti, le manager général de cette équipe UAE, forcément sur la satisfaction. Et puis, on va évoquer Del Toro, qui fait partie justement des adversaires pour cette deuxième place.
Oui, il a vraiment beaucoup, beaucoup d'adversaires. Ça fait longtemps qu'on ne voit pas un Tour de France avec autant de haut niveau. Vingegaard, il est très costaud. Et Paul Seixas, encore aujourd'hui, il a encore démontré, même s'il n'y avait pas besoin, qu'il est vraiment costaud. Il est là et il lutte pour le classement général très, très haut. Donc, mais ils ne sont pas loin non plus. Lipovic, rien pour parce qu'il peut se filer un jour dans une échappée. Donc, il y a Ayuso. Donc, c'est vrai que c'est un très, très, très beau tour.
Voilà, il nous les a listés, Mauro Gianetti, comme si on ne les connaissait pas. Mais il dit qu'il y a une concurrence. Non, les adversaires, ils ne sont pas franchement pour Tadej Pogacar. Maria Azé nous a rejoint. Toi qui es sur la moto toute la journée, une journée avec du soleil ce soir. Mais bon, tu as un peu pris la pluie.
J'ai un peu pris l'eau, ouais, oui.
C'était une journée compliquée. On va se faire ce petit baromètre. On commence dans l'ordre, dans l'ordre du classement actuel. Vingegaard, il en est où?
Vingegaard, il en est où? Il en est à 4 minutes 30 de Tadej Pogacar. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il va regarder plus le classement devant ou le classement derrière? Aujourd'hui, il a fait beaucoup d'efforts pour rattraper Tadej Pogacar pour au final prendre 25 secondes de retard au sommet du col du Hague. Donc il va devoir choisir son classement. Soit Tadej Pogacar est la première place qui est à 4:30, soit surveiller bien Remco Evenepoel qui est à 34 secondes derrière, voire Paul Seixas qui est juste derrière.
Jérôme Pinot, Vingegaard, comment tu le trouves?
De moins en moins bien.
De moins en moins saignant.
Ouais, de moins en moins saignant. Je trouve que aujourd'hui, il a fait une belle réaction parce qu'il essaye de suivre, mais les autres rentraient pas, et là maintenant, il commence à rentrer. Et j'ai l'impression que quand Paul est rentré, il était content d'être arrivé au sommet. Donc, je trouve pas dominateur. Il a annoncé qu'il était aussi fort que jamais. On peut le croire. Mais la troisième semaine arrive et il y a eu le Giro. Je reste toujours ça. Moi, j'y connais rien au vélo, mais je sais que deux grands tours en dernière, la troisième semaine du deuxième. En général, c'est là que tu payes les pots cassés.
Cette équipe Visma Lease a Bike, Jérôme Coppel, elle peut vivre une troisième semaine compliquée?
Elle peut. Aujourd'hui, ils avaient mis deux coureurs dans l'échappée. Ils ont roulé avec Sepkoski au pied. La stratégie n'a pas été très lisible au final. Est-ce que c'est parce que Vingegaard n'est pas bien? Est-ce que c'était pour que Vingegaard tente quelque chose? Mais c'est pas le genre à vraiment attaquer. Donc d'habitude, il roule ce qu'il a fait aujourd'hui. Moi, il m'a plutôt rassuré aujourd'hui. Je crois pas qu'il court contre Pogacar. Je pense que maintenant, ça y est, c'est terminé. Il a bien compris que Pogacar est devant. Je pense que la stratégie qu'il a utilisée aujourd'hui, c'était pour asphyxier ses adversaires. Mais comme le dit Gégé, ça a pas marché. Et même Paul Seixas, si ça continuait un peu, serait soit revenu, soit l'aurait peut-être même distancé. Donc pour l'instant, Pogacar est seul sur sa planète. Vingegaard est derrière, mais il y a pas une galaxie entre Vingegaard et ceux de derrière.
Un autre élément, c'est comme c'est des génies du vélo Visma, peut-être qu'ils ont fait rouler devant pour que Pidcock roule devant et que Red Bull passe à l'action comme hier. Finalement, ils n'ont pas réussi, mais ils réfléchissent longtemps.
Non, mais Pino, il met des petits baffes.
C'est des amis, il a des amis dans le peloton. Eric s'est pas régulièrement.
Richard, et je m'en fous, je vis bien avec, pas de souci.
Richard, est-ce que du côté de Jonas Vingegaard, on doit finalement, effectivement, courir pour cette deuxième place, mais ça veut dire pas essayer de suivre Pogacar et puis placer des attaques à un moment pour là aussi grappiller du temps?
Je pense qu'il a bien couru aujourd'hui, il est quand même costaud, parce que quand Pogacar a attaqué, il a compris, il n'a même pas essayé d'y aller. Par contre, c'est lui qui a assuré le train derrière tout le temps. Et donc, quand on est dans un col, on pousse comme ça, il a fait quand même un super effort. Après, quand il se fait déboîter à 100 mètres, c'est un peu normal qu'il craque, hein, qu'il perd. Moi, il m'a quand même rassuré. Hein, il arrive sur un domaine qui est avantageux pour lui, hormis le contre-la-montre. Donc l'étape de demain, ça va être bien pour lui. Et la dernière semaine, ça va être bien aussi pour lui. On va dire pour lui. On parle pas de Pogacar, on parle pour ses adversaires. Hein. Donc je pense que les prochains jours seront prometteurs pour lui, et il doit tout tenter pour prendre du temps avec ce contre-la-montre. Ce contre-la-montre, derrière, il va avoir le feu. Donc je pense que l'étape de demain va être très importante pour creuser un peu l'écart, parce qu'après, on va être dans les derniers jours du tour, très dur.
Je me demande s'il a intérêt vraiment à rouler derrière Pogacar ou pas laisser finalement les autres le faire, parce que c'est lui qui prend les responsabilités, parce que son adversaire c'était Pogacar, mais aujourd'hui
il est flingué.
Aujourd'hui c'est plus Pogacar son adversaire, c'est les autres qui sont juste derrière lui. Est-ce que dans les jours qui viennent, notamment demain, il n'a pas intérêt à dire allez les gars, bah, vous voulez monter sur le podium, bah, allez-y, et puis là il pourra peut-être les contrer. Je ne sais pas comment, mais là en prenant la responsabilité, en roulant toujours derrière, il prend des coups de bambou sur la fin de l'étape. Ça a été le cas l'autre jour, encore aujourd'hui. Hein.
Ben oui, parce qu'avant il pouvait faire ça parce qu'il était sûr de faire deuxième. Maintenant c'est plus le cas. On en est quand même moins sûr. Alors avant le tour, j'étais sûr et certain qu'il terminerait deuxième, qu'il aurait vraiment plus de marge sur les autres. Et là, peut-être à cause du Giro, ou voilà, il est pourtant il dit qu'il est meilleur, mais c'est vrai que si vraiment son objectif final c'est la deuxième place pour son équipe, bah va falloir changer de stratégie. Parce que si les autres montent un peu en puissance et lui, comme le pense GG, bah dans la troisième semaine va coincer un petit peu, bah les forces vont peut-être s'inverser. Et là, il fait un peu le jeu de Paul Sexas, d'Ayuso, de Remco Evenepoel, voire de Lipovic. Faudrait connaître l'objectif précis de cette formation Visma Lease a Bike. Est-ce qu'elle va encore nous dire non, mais on croit encore à la victoire au Tour de France? Parce que bon, je veux pas leur retaper dessus encore une fois, mais l'année dernière, il y a deux ans, ils nous ont dit ça aussi. On y croit toujours, on a un plan, mais on sent bien que même quand ils le disent, ils le croient pas vraiment. Là, maintenant, il n'y a plus de plan. Je veux dire, maintenant, c'est soit la deuxième place, soit ben, fais-toi plaisir, tente des choses qui t'a explosé. Quoi.
Là, aujourd'hui, dans la montée du col du Hague, expliquez-moi tous les deux pourquoi il a roulé. Pourquoi lui a roulé, a fait le tempo?
Bah, je pense pour épailler les autres au tempo, au train comme il faisait avant.
Oui, mais sauf qu'il n'épaille plus personne.
Bah, non. Bah,
mais
quand il a vu Remco
péter,
à un moment donné, tu te rends compte? Ouais, quand il a vu Remco péter, à mon avis, c'est là, il s'est dit, je vais y aller à mon train, j'ai un lièvre devant qui est Poggi, et donc c'est pour ça qu'il, à mon avis.
Ah, mais Richard, il a roulé avant même que Poggi attaque, hein.
Ouais, oui,
il y avait Carapaz seulement,
mais pourquoi,
il roulait déjà.
Parce qu'il voyait derrière qu'il y avait des prétendants au podium qui étaient en train de faire de l'huile. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais monter à mon train, et il a fait un travail de sape. Et donc, quand tu es en désincol, tu fais ça, il faut être costaud quand même, hein, parce que il n'y a pas. Voilà, donc je pense qu'il a fait ça parce qu'il a peur du podium, et lui a monté à son train. Voilà, donc après il s'est pris l'attaque de Pogacar. Donc je pense qu'il a peur que quelqu'un vienne lui prendre la deuxième place. Il court déjà pour sauver sa deuxième place, sauver le podium. C'est pour ça qu'il met tout pour prendre du champ.
Oui, mais il court comme quand il était sûr de faire deuxième, ou en tout cas quand il était le deuxième plus fort. Rappelez-vous du plateau de Bay, par exemple. Il avait fait ça, il avait roulé, Pogacar était parti, mais il était encore largement deuxième, Jonas Vingegaard. Donc son train, son tempo, son seuil, vous appelez ça comme vous voulez, dans une bosse comme celle-ci, son seuil avant, son deuxième seuil, était beaucoup plus haut que les autres. Donc Pogacar était encore au-dessus, lui il était là, mais il pouvait asphyxier tous les autres. Mais maintenant, ça ne le fait plus, ça ne marche plus. Donc il va falloir qu'ils adaptent un petit peu leur stratégie.
Voilà pour Vingegaard. Autre adversaire de Paul Sexas pour aller chercher la deuxième place. On va faire la famille Bora avec Remco Evenepoel et Florian Lipovic, les meilleurs amis du monde. Et Remco Evenepoel qui finit encore devant, Maria.
Oui, il gère bien ses efforts, hein, Remco Evenepoel. On en parle avec nos confrères belges. Il n'hésite pas en fait à lâcher typiquement dans l'ascension à 4,3 km du sommet quand Vingegaard dictait vraiment le tempo. Il lâche et lui, il se met à son rythme. Il monte vraiment à son rythme. Et à la fin, quand il y a un replat, il utilise tout son punch pour évidemment battre notamment Florian Lipovic à l'arrivée et limiter la casse, hein, parce qu'au final il termine qu'à 6 secondes de Jonas Vingegaard. Voilà, il est toujours 3ème du général Remco Evenepoel, mais Paul Sexas n'est qu'à 15 secondes derrière, et surtout demain il aura probablement plus de mal à suivre dans l'ascension du plateau de Solaison, parce que ce sera quand même une montée beaucoup moins pour lui, il n'y aura pas de replat derrière. Et Florian Lipovic, évidemment son coéquipier, lui pour le coup c'est un autre profil, hein, il a vraiment le profil de grimpeur, c'est lui qui attaque, qui est le premier à attaquer dans le col du Hague, et donc il a moins de punch que Remco Evenepoel, donc il finit derrière, mais peut-être que sur des efforts plus longs et des longues ascensions, il sera meilleur Florian Lipovic.
Ça ressemble à quoi demain, en quelques mots, Jérôme Coppel, cette étape?
Parce que c'est la plus belle.
Ah, très bien.
C'est la plus belle. On passe dans mon village, mes routes d'entraînement. Non, elle est magnifique. Elle est magnifique. On part de Champagnole, là où il y aura la tranche du cyclo les 5 et 6 septembre pour ceux qui voudraient rouler sur les routes du Tour de France. Et voilà, bien sûr. Donc, départ de Champagnole, arrivée plateau de Solaison, la Côte des Rousses. GG connaît bien la première difficulté de la journée dans le Jura. Mais en fait, tout va se passer dans les 50 derniers kilomètres avec la montée du Salève, le col de la Croisette par son côté le plus dur. En fait, il y a quatre côtés. Celui-là,
c'est le plus court mais le plus dur, 5 km. Il y a en moyenne, hein, je parle, le kilomètre le plus facile est à 9,2% de moyenne. Sinon, il y a des passages à 15-16%. On était passé au Dauphiné en 2008 à l'époque et ça en avait surpris plus d'un. Mais à partir de ce Salève, il y a plus de temps de répit. Après, on va descendre, monter le mont qui n'est pas très difficile. Et ensuite, c'est plutôt une vallée descendante jusqu'au pied de la dernière difficulté.
Après, la Roche-Foron, quoi.
La Roche-sur-Foron, exactement. Alors ça, c'est presque une ville. Moi, c'est Arbusigny, mon village, en haut du mont. Et ensuite, c'est plutôt descendant jusqu'au pied du plateau de Solaison. Et là, Maria pourra vous en parler, parce que même en voiture, elle a failli ne pas arriver jusqu'en haut, tellement c'est difficile.
Je monterai en moto demain, donc voilà. Ça va aller.
Bon, ça devrait aller, du coup. 11 km, on l'a vu autour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Très, très difficile. 9% de pente moyenne sur les 11 derniers kilomètres, mais pas du tout de répit. Par contre, il y aura même une portion, il n'y aura pas de spectateurs. Il n'y a aucun répit sur cette montée. Et dès le pied, ça monte vraiment très, très raide. Là, tu ne peux pas vraiment... Justement, tu parlais de Remco Evenepoel qui monte comme un rouleur plutôt. Là, s'il fait ça dès le pied, il ne pourra jamais revenir jusqu'au sommet.
Et Richard, viens, cette famille où il y a des histoires avec Florian Lipovic et Remco Evenepoel, demain, ça peut peut-être être compliqué pour eux parce qu'il y a un moment, ils devraient être forts justement. Ils sont deux costauds, mais on a l'impression que l'entente n'est vraiment pas là, quoi.
Ouais, mais demain, ça sera à la pédale. Hein. Et c'est tellement dur, hein. Le Salève, je connais. Et l'enchaînement du Salève, celui qui va résister au Salève, il va l'avoir dans la gorge. Et pour finir, il va carrément exploser. Je pense demain, dans l'équipe Bora, il y aura qu'un leader. Ça va être simple. Parce que le parcours, il est tellement dur, l'arrivée est tellement dure, avec des pourcentages, je parle. Hein. C'est vraiment pour les grimpeurs. Donc les grimpeurs vont être à l'aise. Ceux qui sont en limite, en sur-régime, ils vont exploser. Ça, c'est une certitude. Donc, à moins qu'on ait une météo pluvieuse, que ça soit un peu bridé, vous voyez, trucs comme ça. Mais hormis ça, moi, je vois que dans cette équipe Bora, il y aura un seul leader demain soir. Ça sera sûrement Lipovic.
Jérôme, il faut que Remco, demain, se mette au service de Lipovic. Est-ce qu'il en est capable ?
Il ne fera pas.
Jamais le faire.
Jamais de la vie. Il va... Je suis d'accord avec Maria de ce qu'elle dit, mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il gère. Il ne gère pas. Il a pété aujourd'hui. Dès que c'est dur, il pète. Et après, il s'accroche.
Mais justement, et il arrive à remettre équipe, du braquet. On devrait lui dire, tu vois bien.
Jamais de la vie. C'est Remco Evenepoel, c'est Cristiano Ronaldo, c'est Messi, c'est Neymar. Tu ne lui dis pas ce qu'il faut qu'il fasse. Il se prend pour le meilleur. Demain, il va payer. Demain soir, la messe est dite chez Bora.
On est d'accord qu'en revanche, s'il ne se prenait pas pour le meilleur, c'est ce qu'il devrait faire.
Bah, après Solaison, après avoir pris un ticket, oui. Mais il ne fera pas avant. Ce n'est pas possible. Moi, je ne vois pas comment il ne peut pas péter demain. Il a déjà fait deux amorces de serrage dans des petits cols, des longs cols. Et Gégé me dit, je le crois volontiers, que c'est très dur. Dans un col de 11 km à 9%, Remco va prendre 2-3 minutes. Peut-être sur Pogacar un peu plus, mais sur des Vingegaard et des Sexas, et même sur son coéquipier Lipovic, même si aujourd'hui il a montré quelques signes de faiblesse. Demain soir, il sera équipier, mais il va vouloir gagner le chrono, et puis après, bah, il fera la course. Mais vous voyez Remco Evenepoel vous mettre à rouler pour Lipovic, quand c'est pas pour lui.
Je suis pas sûr, non, mais.
moi, je pense qu'il va se relever. Il va se relever, s'il pète, il va se relever et il va penser qu'une chose, sauver son tour. Sauver son tour, il faut gagner le chrono. Ouais, le chrono.
Ouais,
le chrono. Et ça, il va prendre la décision demain. Mais par contre, comme tu le dis, il va sauver son tour, mais pas pour faire l'équipier. Hein. Donc il va sauver son tour.
Ouais, et puis Richard, franchement, depuis le début, on la voit, la baston entre les deux. Il y a déjà Pativilla qui a dû intervenir pour régler le problème parce qu'il y a déjà eu des déclarations d'Evenepoel, notamment au Lioran. Ça peut pas bien s'entendre, ça peut pas bien finir. Même si Lipovic, s'il est hermétique un peu à tout ça, ça doit le peser dans le staff. Ils doivent être divisés en deux. Faut pas parler de l'un quand il y a l'autre. Enfin, ça doit être très compliqué.
Je trouve un peu dur parce que moi j'ai vu leur vidéo dans le bus, elle m'a convaincu. Là, j'étais. Je suis sûr que tout va bien moi dans cette équipe.
Sincérité.
Franchement, c'était incroyable.
Il nous reste.
Pas aussi pessimiste que vous sur Evenepoel. On verra demain évidemment, mais je trouve qu'il gère bien ses efforts. Il a pris peut-être deux coups de serrage, mais. On va voir demain.
Ça dépendra.
Demain, c'est l'instant de vérité, parce que derrière, il peut reprendre du temps dans le chrono. Voilà, je demande à voir.
Ça dépendra de quand la bagarre va partir. Il peut encore limiter, mais si la bagarre part de loin, il ne sera pas dans le final.
C'est vrai que ça peut jouer, évidemment. Il nous reste deux garçons à étudier dans ce baromètre. Tout d'abord, Ayuso. Maria.
Juan Ayuso, cinquième du général, qui a perdu son maillot blanc aujourd'hui pour 3 secondes au profit de Paul Sexas. Un peu moins à l'aise dans les forts pourcentages, mais ça reste un candidat très sérieux. C'est difficile, je trouve, de l'analyser. Il est assez inconstant, Juan Ayuso. Il peut suivre, mais en même temps, il ne peut pas suivre les meilleurs.
Il est toujours là quand même, il est très jeune. Et Jérôme, toi, tu pensais qu'aujourd'hui, il allait prendre plus cher.
Ouais, bah finalement, il m'a surpris parce que je l'ai vu mal placé au pied et j'ai l'impression qu'il n'est pas posé comme chez UAE Emirates sur son vélo. Alors, ça me perturbe un peu. Il est très couché sur son vélo, j'ai toujours l'impression qu'il est un peu à bloc, donc il faut que je m'enlève ça de la tête parce que finalement il n'est pas à bloc, il a quand même bien résisté. Voilà, il est dans un, bah, comme Evenepoel et Lipovic, tu sens qu'il est juste, mais il est toujours là quand même. Alors à voir si, comme le dit Maria, c'est les forts pourcentages qu'il n'aime pas du tout, bah, on va être fixé demain. Demain, on a eu une montée, le Salève, avec des très forts pourcentages et l'autre qui est longue avec des pourcentages assez durs, mais qui connaît, lui. Il a fait le Tara, il a été très bien derrière Del Toro, justement. Donc, il connaît cette montée, il sait comment la gérer, même si l'adversité n'est pas la même. Ça, c'est un avantage, c'est un petit truc. Paul Sexas la connaît par cœur, cette montée, mais il ne l'a jamais fait en course non plus. Donc, ça, c'est un petit avantage pour Ayuso et Del Toro, par exemple.
Je rappelle, avant de continuer à étudier les adversaires de Paul Sexas, que vous pouvez nous appeler au 3216 pour poser vos questions dans quelques instants à nos consultants Jérôme Coppel, Jérôme Pinault et Richard Virin. Ton avis, Richard, sur Juan Ayuso, un petit peu moins bien, peut-être, on le sent un peu à la limite. Demain, ça peut être compliqué pour lui aussi.
Oui, ça peut être compliqué, surtout si à un moment donné, on voit Pogacar avoir un petit problème, parce que c'est quand même un équipier. Et vous imaginez, l'équipe UAE aujourd'hui court pour mettre deux garçons sur le podium. Donc, c'est pas on veut gagner le tour. On veut gagner le tour, mais on veut mettre aussi un deuxième. Donc, c'est pour vous voir, vous montrer la marge de cette équipe, c'est qu'il joue avec le deuxième, là. C'est-à-dire qu'il y a Pogacar devant et on attend. Pogacar attend. Ben là, ça fait maintenant 3 jours que Pogacar, il court pour Ayuso pour le dire, moi, je veux qu'il fasse deuxième avec moi à la fin du tour. Donc, je me cale ma course sur lui. C'est quand même assez incroyable d'avoir cette force de cette équipe, de se dire, bon voilà, on court avec deux coureurs pour faire 1 et 2 ou 1 et 3. Donc, je crois qu'à un moment donné, s'ils ont un souci, Ayuso, il va sauter en l'air.
Del Toro, tu veux dire?
Ouais, Del Toro. Ouais, Del Toro va sauter en l'air parce qu'il va devoir faire l'équipier. Là, aujourd'hui, il est dans les roues, il est protégé, tout ça, et il saute un peu. Donc, on sent qu'il est un électron libre, mais à la limite. Donc, il ne faudrait pas qu'il aille chercher des bidons, entre guillemets, parce que si c'est le cas, d'un coup, il va disparaître du classement.
Et oui, on parlait d'Ayuso et tu as évoqué, toi, Del Toro. C'est le dernier, en fait, des adversaires pour Paul Sexas. Jérôme Pinault, avec une situation particulière, effectivement, pour le Mexicain. On sent que chez UAE, on a envie de faire 1 et 2, si possible. Est-ce que ça peut être une stratégie, finalement, où on se dit ça va être compliqué et qu'il faut maintenant vraiment se consacrer à Pogacar? Il démarre quand il veut et puis Del Toro, bah, il joue, lui, de son côté.
Non, si Del Toro a ses jambes, comme aujourd'hui, parce qu'il a un peu craqué, mais il est bien revenu, et il n'y aura pas de souci, ils pourront jouer les deux. Pogacar pourra attaquer, et il a tellement de marge aujourd'hui, quand Pogacar a attaqué, personne n'a bougé, donc Del Toro peut évidemment jouer une place sur le podium.
Eh bien, on va étudier ça attentivement dès demain avec ce plateau de Solaison. On va retourner voir Pierre Thévenet à Tbilissi, la finale de la Coupe du Monde U20 France-Afrique du Sud de rugby. On en est où, Pierre?
C'est compliqué, c'est dur pour les Français. Ils sont menés 3-0 par cette équipe d'Afrique du Sud alors qu'on joue la 27e minute. C'est dur parce que les Sud-Africains sont très costauds. Ils tiennent le ballon dans les 22 mètres français, mais pour l'instant, ils tiennent bien les Bleus puisqu'ils n'ont encaissé qu'une seule pénalité de la part du demi d'ouverture sud-africain Yakin Ahmed. Ils ont récupéré le ballon, 27e minute de jeu. 3-0 pour l'Afrique du Sud dans cette finale de la Coupe du Monde du vent.
Merci Pierre. Dernier tiers temps de l'After Tour dans quelques instants. Vous nous appelez au 32-16 si vous souhaitez poser des questions à nos consultants Jérôme Pinault, Jérôme Coppel et Richard Vienck. À tout de suite.
RMC, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
En compagnie de nos consultants Richard Virenc, Jérôme Pinault, Jérôme Coppel et les auditeurs qui vont pouvoir vous poser des questions pendant les quelques minutes qui restent de cet after tour avant de retrouver Pierre Dorian pour l'intégrale Coupe du Monde. Et nous avons Martial en notre compagnie. Bonsoir Martial.
Bonsoir messieurs, bonsoir.
Bonsoir Martial. De Saint-Blaise, c'est où Saint-Blaise?
Saint-Blaise, c'est dans les Alpes-Maritimes. Vous voyez l'aéroport de Nice, vous allez 20 km dans les terres, on est à Saint-Blaise.
Ah ben très bien, on avait été posé sur le tarmac de l'aéroport de Nice pour l'arrivée lors du Tour de France qui s'était terminé du côté de cette magnifique ville et de la promenade des Anglais. Tu es
là où
en
Christophe
compagnie
à son jet, hein.
Bien sûr, tu es en compagnie de nos auditeurs, Martial. Donc vas-y, tu peux leur poser ta question.
Bah moi en fait c'est de pas tant une question, mais j'aimerais qu'on parle d'un garçon dont on parle pas. C'est de Pogacar.
Ah, c'est vrai qu'on en parle pas. on a plus envie d'en parler. Il est tout seul dans son.
Bah moi j'ai envie qu'on en parle. Moi j'ai envie qu'on en parle dans le sens où alors j'entends parfaitement que cette année, c'est vrai qu'il y a une lutte magnifique pour la deuxième place, parce que même les autres années, bon, Vingegaard était quand même au-dessus, il y a Paul Sexas qui est dans l'eau, etc. Mais je trouve qu'on est en train de complètement passer sous les radars au bout d'un moment. Pogacar, pour moi, actuellement, c'est le plus grand sportif de la planète. Alors, vous allez peut-être me dire Duplantis, je ne sais pas, mais pour moi, il n'y a pas un sportif qui domine le plus son sport aujourd'hui que Pogacar. Et je trouve qu'on est en train de, je ne vais pas dire de banaliser ce qu'il fait, mais... Bah, il gagne, il enchaîne, mais et ça en lasse certains. Il y a certains qui aimeraient que ça s'arrête. Il y a toujours cette rengaine sur les doutes, etc. Mais moi, en fait, je me sens chanceux d'être contemporain d'un gars comme ça. Moi, j'ai 36 ans. Alors, j'ai une grande culture de l'histoire du cyclisme, mais forcément, j'ai pas connu Eddy Merckx, j'ai pas connu Bernard Hinault. Et je me dis, mais je suis chanceux. Et j'ai un gamin de 8 ans qui est fou de lui. Et je trouve qu'en fait, bah, on bat. Analyse, on n'en parle plus et on passe presque sous les radars ce qu'il est en train de réaliser jour après jour.
Richard.
Merci. moi, je trouve qu'on en parle beaucoup, mais comme il domine tellement de la tête aux pieds depuis le début de saison et qu'il a déjà gagné 4 Tours de France, que quelque part, on n'est pas lassé, mais presque, parce qu'on sait que, vu comme il court, je dirais en grand monsieur, hein, c'est quelqu'un qui attaque de loin, qui fait du spectacle, c'est vrai. Hein, donc, mais derrière, ben, ça casse un peu le suspense, parce que les adversaires, il n'y en a pas vraiment de sa classe. On peut dire ce qu'on veut, chaque course qu'il fait, il gagne, et de telle façon, au championnat du monde, il a attaqué à 100 km de l'arrivée. Quand il dit, ah, Paris-Roubaix, je vais faire Paris-Roubaix, alors qu'il fait 65 kilos, allez, il va presque gagner Paris-Roubaix. Donc, c'est un coureur, c'est vrai, hors pair. Et quand il est sur le tour, eh ben, on a un poulain qui est derrière, qui s'appelle Paul Sexas, qui ne devait pas venir. Et que Bernard Hinault, c'est le dernier Français qui a gagné. Et que là, on se dit, putain, là, ça va être vraiment... Donc, on est un peu trop chauvin, c'est vrai. Mais moi, je trouve que Pogacar, ben oui, on en parle, on est obligé d'en parler, mais on est plus enthousiaste pour un Français ou pour Lenny Martinez qui est juste derrière que pour un Pogacar qui va gagner ben, un jour sur deux. Moi, à mon avis, c'est comme ça que je le ressens.
Mais Jérôme, on comprend hein, la position de Martial. C'est vrai que c'est extraordinaire ce que fait Tadej Pogacar. Donc, on a un peu cette double pensée, cette dichotomie entre... Ben, on n'a pas de suspense, mais en même temps, il y a un garçon qui est incroyable.
Non, mais en plus... Je suis pas d'accord avec toi, Martial, parce qu'on en parle, alors qu'on n'en fasse pas des tonnes, c'est parce qu'on a Paul Sexas derrière. Et où je te rejoins pas, moi personnellement, et je pense que GG c'est pareil, et Richard aussi, il y a pas de soupçon dans nos propos, il y a zéro soupçon. C'est juste
non,
que
pas dans les vôtres, bah, pas dans les vôtres, pas dans les vôtres.
Il est le plus fort. Et que dire de plus que d'admirer son spectacle, que t'as kiffé sa supériorité. Maintenant, regarde, à l'époque, quand certains dominaient et Ulrich dominait et que Richard était l'outsider, ben on a envie de parler de Richard plus que du dominateur. Ce serait pareil dans toute autre circonstance. Maintenant, évidemment qu'on admire le personnage, évidemment qu'on admire le coureur. Ce qu'on aime le plus chez lui, c'est comme tu l'as dit, c'est pas tant sa domination sur les routes du Tour, parce qu'il est au-dessus et son prétendant et son second est pas pour l'instant, était pas à la hauteur, il a été par le passé, mais c'est fini. Mais c'est surtout parce qu'il fait de la saison entière et sur chacune des courses, il se bat. Et cette année, je dirais même que son plus beau fait d'armes, c'est sa défaite sur Vélodrome de Roubaix face à Van Aert.
C'est le paradoxe.
Parce que ça le rend humain. Parce que ça le rend humain. Parce que ça montre qu'il est aussi capable de... Il peut perdre des courses. Et maintenant, je te rejoins. Et Richard, je pense que tu peux le dire aussi. Tu as été le meilleur et de loin de nous trois. Quand tu es fort, tu as envie de leur péter la gueule. Tu n'as pas envie de faire plaisir au public et à la presse. Tu es le plus fort. Dans un col, tu attaques et tu t'envoles.
Non mais la différence, Pogacar, c'est Richard Ferrand. Moi, je l'attends. Était français en plus.
Oui, moi Pogacar, là, dans le Tour, il y a pas photo. Pour moi, il va gagner le Tour pour une cinquième fois. Je serais content pour lui. Mais là où je l'attends, Pogacar, et là, je vais dire, putain, il va pas le faire quand même. C'est qu'il aille à la Vuelta et qu'il aille.
Il va y aller à la Vuelta, a priori.
Oui, ouais, mais voilà, c'est là, il va être encore plus incroyable. Et là, je vais dire encore une fois de plus, putain, chapeau le gars. Il est là à Vuelta, il les allume. Et en plus, il y a le champion du monde, championnat du monde, et il peut peut-être encore gagner. Donc là, oui, mais là, aujourd'hui, sur le Tour, forcément, ben, ça y est, pour moi, il nous a montré que c'était le plus fort. Quand il faisait les sprints, là, les 3-4 premiers jours, là, il faisait un sprint, il leur mettait 3 vélos à tous. Là, donc ça y est, on a compris.
Merci Richard, merci Martial de nous avoir appelé au 32-16. Merci Jérôme Coppel, merci Jérôme Pinault. Petit tour rapide à la finale de la Coupe du Monde U20, France-Afrique du Sud avec Pierre Thévenet.
Le score n'a pas bougé, 3-0 toujours pour les Sud-Africains, 34e minute de jeu, mais c'est dur pour les Français dans toutes les zones d'affrontement, les mêlées, les rucks, les mauls. Les Sud-Africains sont plus forts pour l'instant que nos Bleus qui s'accrochent. 3-0, 3 points de retard à la 34e minute de jeu.
Merci beaucoup Pierre. Dans quelques instants, c'est l'intégrale Coupe du Monde avec Pierre Dorian. On se retrouve dans l'After Tour demain avec Richard Virenque, avec Jérôme Pinault, avec Jérôme Coppel. Bonne soirée, ciao.
RMC, l'After Tour.